Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport dans le département à travers ses différents acteurs, associations, structures et entreprises. Et aujourd'hui une émission plus courte mais intense puisqu'on va parler de Tolpar, du combat au couteau. Pierre Terouane, licencié au Samouraï 2000, a été sacré champion d'Europe. On commence sans plus attendre cet épisode de Sport en Sarthe avec notre invité.
Radio Alpa, l'alternative.
Le 22 mars se tenait le championnat d'Europe de Tolpar, une discipline d'escrime à lame courte. Et chaque fois qu'il y a sport de combat, il y a le Samouraï 2000. Le club manceau d'arts martiaux et de sport de combat s'est à nouveau illustré ce 22 mars grâce à la performance de Pierre Terouane, nouveau champion d'Europe de Tolpar. Pierre Terouane qui a également reçu la distinction de meilleur entraîneur, on va y revenir. Et c'était donc une belle journée hein, pour Pierre Terouane et le Samouraï 2000. Mais alors, qu'est-ce que c'est le Tolpar et pourquoi cette discipline est en plein essor? On discute de cette discipline et on revient sur cette grande journée de compétition du championnat d'Europe avec le champion Pierre Terouane. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à noter que ce n'était que la deuxième édition du championnat d'Europe de Tolpar. Ça signifie que c'est une discipline qui est encore récente en fait?
Elle est récente, elle est arrivée en 2017 en France.
Pourquoi le Samouraï 2000 décide déjà de s'y investir, à travers vous notamment?
Eh bien, c'est au travers de ma pratique personnelle en self-défense. Je m'intéresse aux disciplines annexes qui peuvent compléter ma pratique. Donc le Tolpar a été conçu au départ comme étant un module de self-défense pour réagir face aux armes blanches. Et puis pour mettre les techniques en application, la compétition est née. On se confronte avec des casques d'escrime. Nous portons des gants de moto pour protéger les mains, nous portons une coquille, pour les femmes il y a un plastron, et nous utilisons des lames courtes qui mesurent 22 cm de la pointe jusqu'au manche, avec la particularité d'être à un seul tranchant, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul côté de la lame qui marque, et sur un tableau électronique, ce sont des couteaux électroniques, et donc il s'agit d'un jeu d'escrime, un jeu de touche où il ne faut pas être touché, car le point peut être annulé si l'adversaire touche en même temps ou quelques instants juste après.
Alors avant qu'on rentre davantage dans les détails de ce que c'est qu'en fait le Tolpar d'abord, donc vous disiez que le Samouraï 2000 a investi la discipline à travers votre pratique personnelle, mais il y a aussi des cours qui sont donnés au Samouraï 2000 ou c'est
pour l'instant
juste...
ce sont des balbutiements puisque dans le cadre de ma préparation j'ai réuni une équipe de sparring partners. Et puis finalement, ils se sont pris au jeu. Un certain nombre d'entre eux ont décidé également de s'inscrire à la compétition où ils ont fait également de belles prestations. Ce qui a pu me valoir en récompense le statut du meilleur entraîneur.
Et donc à la base, vous expliquez, c'est le Tolpar, c'est une technique d'autodéfense. Si j'ai bien compris, c'était développé par les forces spéciales russes. Comment ça se fait que c'est devenu un sport en fait?
Oui, alors ça permet surtout en fait de confronter au travers d'un même règlement différents arts martiaux, différents sports de combat, différents self-défense et aussi des personnes qui pratiquent directement la discipline Tolpar. Les règles de compétition permettent à chacun style de se confondre les uns aux autres et de continuer à faire mûrir la discipline puisqu'on s'enrichit des courants différents.
Ah, parce qu'il y a plusieurs disciplines qui se rencontrent en fait au sein du Tolpar.
Exactement, exactement. Vous avez par exemple dans les arts martiaux des disciplines que les pratiquants connaissent bien, qui s'appelle le Kali Escrima, qui est un art philippin, où les pratiquants utilisent notamment des armes blanches, des bâtons dans leur pratique, et viennent à ce genre de compétition pour se tester. Quoi.
Et alors par contre pour le Tolpar, c'est toujours avec cette lame courte du coup?
Toujours, avec cette particularité d'avoir un seul tranchant. Le style de combat est libre, donc on peut agir comme un escrimeur avec le bras armé en avant, ou bien comme un boxeur avec le bras armé en arrière, et avoir différents maintiens sur la prise du couteau.
Donc effectivement, il n'y a pas de longue épée comme pour l'escrime, il y a quand même des similitudes avec l'escrime traditionnel?
Il y a des similitudes dans le sens où on peut toucher l'adversaire sur toutes les parties du corps, à savoir les bras, la tête, le corps et les jambes, c'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Les grandes différences avec l'escrime, c'est que, dû à la longueur de la lame qui est plus courte, on va se déplacer autour l'un de l'autre, comme le font des karatékas, des judokas ou des boxeurs. Ce n'est pas linéaire. Et le bras qui n'est pas armé peut servir également de défense pour se protéger, voire même saisir l'adversaire.
Pour se protéger, c'est-à-dire
C'est-à-dire on peut parer des coups, pas seulement avec le bras qui est armé, mais avec le bras de défense.
Alors on peut parer des coups de couteau avec le bras...
Absolument. Ouais, ouais. Alors, pas de, bien sûr, c'est pas la lame elle-même qu'on vient parer, mais le bras de l'adversaire.
Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est ça que je me demandais.
Le jeu étant toujours de ne pas être touché.
D'accord, oui. Et on peut toucher l'adversaire qu'avec le couteau.
Qu'avec le couteau, effectivement, oui.
Et on précise que ce ne sont pas des vrais couteaux. Hein,
non, bien sûr, ce sont des armes de compétition étudiées pour, qui sont dans un plastique très, très rigide et électronique, donc sur un tranchant.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'une des différences avec l'escrime, c'est que c'est pas linéaire, parce que c'est vrai que
exactement.
Quand on regarde de l'escrime, donc les deux adversaires sont face à face et ils avancent ou ils reculent, mais comme si c'était en deux dimensions en fait. Alors que là, dans le tolpar, on peut tourner autour.
Exactement.
À quoi ça ressemble l'arène du coup?
On est sur la même surface qu'un tatami de karaté ou de judo. Alors on est sur un sol dur, hein, c'est délimité au sol. Mais donc on tourne autour l'un de l'autre. Et puis il n'y a pas vraiment d'interruption, c'est-à-dire que les arbitres annoncent les points qui sont marqués, mais le combat continue. Donc la durée d'un assaut peut aller jusqu'à 3 minutes, à l'issue c'est celui qui a le plus de points, sauf si vous avez déjà marqué 5 points. Donc certains combats se terminent très vite, en moins de 30 secondes par exemple.
Ça demande quel type de compétences le tolpar? À quoi est-ce qu'il faut s'exercer particulièrement?
C'est intéressant votre question, parce que c'est sur cela que je me suis focalisé sur toute ma préparation. En général, je fais toujours des préparations courtes pour les compétitions, mais ici je me suis préparé 6 mois en avant. Pourquoi ? Parce que les qualités exigées pour la discipline sont exactement celles qui diminuent quand on prend un peu d'âge, à savoir de l'agilité, de l'explosivité, de la précision, des réflexes, le contrôle de la distance, du rythme, avoir une stratégie de combat. Et donc je me suis entraîné physiquement beaucoup comme un gymnaste en fait, donc à faire des équilibres sur les mains, des saltos, des choses comme ça pour travailler cette agilité. Et puis pour réveiller mes réflexes, comme je suis quelqu'un d'un peu atypique, je me suis entraîné en tennis de table, de façon à travailler ma précision, mes déplacements, le coup d'œil. Et ce combo a réussi à créer l'alchimie avec des entraînements spécifiques, bien sûr, mais c'était intéressant de compléter l'entraînement de cette façon.
Alors effectivement, on disait tout à l'heure qu'il y a plusieurs disciplines qui se rencontrent dans le tolpar. Je pensais pas forcément au tennis de table pour le coup. Et donc effectivement, puisque la discipline est récente, en fait la plupart des pratiquants de tolpar, ils proviennent d'autres sports de combat à la base.
Alors, il y en a, oui, pour une partie d'entre eux, et pour une autre partie, vraiment uniquement de la discipline. Il y a déjà un petit peu en France des clubs de tolpar qui s'ouvrent par-ci, par-là, parce que la discipline en elle-même est ludique. Les avantages qu'on va retrouver, c'est qu'on pratique un sport de combat en étant totalement en sécurité. C'est-à-dire qu'on est extrêmement bien protégé par le casque d'escrime, les gants de moto sont efficaces, la coquille, le plastron. Et donc on est sur un sport de touche, comme les sports de combat, mais sans dommages particuliers. L'autre avantage pour les gens comme moi qui pratiquent depuis de longues années, c'est qu'au fil du temps, le corps se fatigue, on a un peu d'arthrose, un peu mal au dos, mais ça reste ici, le tolpar, une discipline accessible à tout âge, et à tout niveau pour s'amuser, entre guillemets.
On précise en tout cas que vous, Pierre Terouane, vous avez déjà fait du Krav Maga, vous étiez champion du monde, on le rappelle. Est-ce que ça vous a servi justement dans cet entraînement à la discipline du tolpar? Est-ce que vos compétences en Krav Maga, vous les retrouvez
aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que en fait, on a beaucoup de travail en self-défense qui est technique et qui est stéréotypé. Et lorsqu'on souhaite mettre en pratique, en situation, on se rend compte de beaucoup de failles finalement dans la gestuelle de défense. Et le fait d'être amené à pratiquer ce genre de discipline, eh bien, réveille de meilleurs réflexes, une meilleure compréhension sur les mouvements qui peuvent être effectués avec une telle arme. Et donc organise forcément une meilleure défense. Ça ouvre une prise de conscience en fait avec la pratique.
En fait, les compétences qu'on va développer pendant le tolpar, elles sont aussi en quelque sorte un peu dépendantes des sports qu'on a pratiqués, des disciplines qu'on a pratiquées avant. Est-ce que par exemple au sein des compétitions, vous êtes capable à peu près d'identifier d'où viennent vos adversaires en termes de discipline?
Oui, bien sûr. On reconnaît forcément le style d'un pratiquant. Quel que soit son art martial, si quelqu'un a fait du karaté, on va remarquer ses positions, sa façon de se déplacer. Si quelqu'un a pratiqué de la boxe, il va être beaucoup plus fluide avec le haut du corps. Bien sûr, c'est évident. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les gens qui pratiquent le kali escrima ont une façon de bouger en déplaçant l'arme autour d'eux, qui ne sera pas la même que quelqu'un qui a un style de close combat, par exemple.
Donc chacun a son style, mais paradoxalement, du coup, ça implique de devoir tout le temps adapter son style face à l'adversaire qu'on rencontre.
C'est ce qui fait évoluer la discipline, s'enrichir de ce que les autres font, retenir pour nous ce qui est utile et puis mettre de côté ce qu'on ne trouve pas intéressant. Mais voilà comment la discipline progresse.
Et alors, comment ça s'est passé pour vous, le championnat d'Europe du 22 mars? Comment est-ce que vous êtes parvenu donc jusqu'à ce titre de champion?
Oui, comme je le disais, c'est une compétition à laquelle j'ai décidé de participer 6 mois en avance, dès que j'ai eu connaissance de celle-ci, pour un double challenge. Réaliser d'un côté une performance sportive et de l'autre côté une reconnaissance professionnelle. Alors, une performance sportive, pourquoi? Parce que cela fait déjà un moment, c'est en 2019 que j'ai eu mon titre de champion du monde en Krav Maga. Le temps passe et on sort finalement de l'actualité. Et donc, il est important toujours de se remettre en question et de ne pas rester dans les souvenirs. Est-ce que j'ai toujours un niveau compétitif? Et donc, il y avait cet intérêt, ce challenge pour moi, qui était intéressant. Et puis, de l'autre côté, professionnel, parce que mon activité professionnelle à moi est dans celui de la self-défense. Donc, j'interviens bien sûr au Samouraï 2000 comme coach sportif pour cette discipline, pour la défense urbaine. Et j'interviens également pour des formations en entreprise de gestion de conflits. Donc j'amène des situations, notamment avec les armes blanches, pour apprendre aux gens à faire face à des situations de violence.
Et donc pendant cette compétition, pour vous, ça a été un parcours sans faute ou vous êtes passé quand même par quelques défaites? Comment ça s'est passé?
Non. Un parcours, comme je l'avais préparé, et je pense que ça peut être intéressant pour des sportifs de différents horizons. Je me suis servi d'un livre que j'utilisais déjà quand j'avais 20 ans, qui s'appelle « Savoir gagner », et qui nous dirige sur 7 compétences à développer, qui s'appelle « Les 7 piliers de la performance ». Et donc, ça nous oblige à définir un objectif clair, à comprendre ce que l'on fait dans l'action et dans la récupération, comment on se prépare émotionnellement, etc. Donc j'ai fait beaucoup de travail mental, de sophrologie, de préparation sur cela, en imaginant des situations de combat que j'allais reproduire par la suite, imaginer également la façon de réussir, de l'emporter, tout en étant également lucide et aussi paradoxalement préparer la défaite, mais en vendant chèrement sa peau. Donc je me suis préparé à la fois physiquement, mentalement, techniquement. J'ai travaillé sur les qualités physiques qui ne sont pas forcément naturelles pour moi. C'est pourquoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé des exercices de préparation de gymnastique, de lutteur également, pour travailler la souplesse de ma colonne et les esquives dans les combats. Et puis toute l'approche mentale qui peut entourer la compétition.
Mais du coup, vous m'avez pas répondu si vous aviez eu une défaite ou pas.
Ah non, pas du tout. Non, j'ai eu. Donc je me suis fait titrer dans la catégorie vétéran plus de 45 ans, qui va jusqu'à 55 ans. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans. Et donc j'ai remporté 5 combats.
Vous avez rencontré 5 adversaires.
5 adversaires. Et bien sûr, il faut gagner tous ces combats.
Alors on rappelle que la compétition rassemblait une centaine de combattants d'une douzaine de pays. Est-ce que il y a certaines nations qui s'illustrent particulièrement dans le Tolpar, ou c'est pas encore très visible?
Si, mais bien sûr, les pays de l'Est peuvent être très forts dans ce genre de compétition, mais on peut remarquer au fur et à mesure du temps vraiment quelque chose qui devient homogène, puisque tout le monde se nourrit de l'expérience des uns et des autres. Disons que le niveau global est fort, est bon, et que beaucoup de combats se jouent à un point ou en prolongation au premier qui va toucher. Donc c'est vraiment limite. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'erreurs d'entraînement et non plus de stratégie lorsqu'on aborde un combat. Parce qu'une erreur peut être très difficile à récupérer.
Ouais, le niveau est déjà très haut, même si la discipline est récente.
Bien sûr.
Alors, et Pierre Terouane, vous n'avez pas seulement reçu votre titre de champion d'Europe de Tolpar à l'issue de cette compétition, mais également la distinction de meilleur entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, mais finalement, pour me préparer, j'ai réuni tout d'abord une équipe de sparring partners, hommes et femmes, pour travailler ma stratégie, et puis mes partenaires d'entraînement, pour la plupart d'entre eux, se sont pris au jeu et ont décidé également de s'inscrire dans la compétition. Donc bien sûr, pour une première compétition pour la plupart d'entre eux, et en plus dans le domaine du Tolpar, le niveau étant très élevé, ils n'ont pas pu s'illustrer, mais ils ont fait de très très belles oppositions qui se sont fait remarquer, et c'est pour cette raison que j'ai pu obtenir également la récompense du meilleur entraîneur.
Mais c'est qui vous l'a décerné en fait, cette récompense-là?
Les organisateurs de l'événement.
D'accord, ça faisait partie des distinctions distribuées à l'issue de la compétition.
Exactement. Oui, okay. Ouais.
Ça a été pour vous aussi une forme d'aventure collective, quelque part, cette compétition, à travers l'engagement de ses élèves?
Bien sûr, parce que comme on dit, c'est souvent le voyage qui compte plus que la destination. Pour moi, cela est vrai, cette règle est vraie, mais il prend beaucoup plus de valeur lorsque l'objectif est atteint aussi. Et donc, bien sûr, toutes les séquences d'entraînement qu'on a pu faire ensemble, elles ont pris un sens. La plupart d'entre eux se sont entraînés entre 2 et 3 fois par semaine avec moi. Et à côté, moi, j'ai rajouté 2 à 3 séances d'entraînement, de préparation physique, de préparation mentale.
Et donc vous avez salué leur performance pendant cette compétition, même si pour le moment ils n'ont pas encore dépassé le maître. Je vous remercie. Pierre Thérouanne, nouveau champion d'Europe de Tolpar. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur radioalpa.com, dans les infos de la rédaction. Et on se retrouve fin avril, début mai, pour le retour de Sport en Sarthe et de C'est d'Actu sur Radio Alpa, bien évidemment.